France Culture.
Le journal est présenté par Valentin Gréhy. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Donald Trump entre à la Maison Blanche ce lundi et les Américains défilent aujourd'hui contre lui. Après une marche historique en 2017 qui avait réuni 500 000 personnes rien qu'à Washington, la nouvelle marche du peuple devrait être plus clairsemée. Reportage au cœur de la contestation au début de ce journal. Deux juges de la Cour suprême assassinés à Téhéran. L'assaillant les a abattus sur leur lieu de travail. Les deux responsables avaient des rôles importants dans la justice iranienne, comme l'évoquera notre correspondant sur place, Siavosh Ghazi. Enfin, c'est une nouvelle saignée inattendue pour la culture. La ministre Rachida Dati a annoncé au Sénat hier sa volonté de restreindre les crédits dédiés à la création artistique. Économie attendue, 50 millions d'euros. La marche du peuple s'élance à Washington. À deux jours de l'investiture de Donald Trump, ses opposants se mobilisent à travers le pays et notamment dans la capitale à l'appel de plusieurs organisations. Il y a 8 ans, la marche des femmes avait rassemblé jusqu'à 500 000 personnes lors de la première arrivée au pouvoir du président républicain. Le mouvement s'est depuis rebaptisé. Ses participants se promettent un jour de résistance joyeuse pour la démocratie et les droits des femmes, des personnes LGBT et racisées, en faveur aussi du climat et de la justice sociale. Camille Revel, vous êtes sur place. Le cortège marche vers Lincoln Memorial avec des manifestantes et manifestants qui oscillent entre colère et tristesse.
Oui, et vous entendez peut-être à côté de nous, il y a beaucoup de monde dans la rue, des milliers d'Américains venus de tout le pays. Beaucoup de femmes, en effet, bonnet rose sur la tête, des pancartes, mon corps, mon choix, bats-toi comme une fille, et des cris de ralliement, we won't go back, on ne reviendra pas en arrière, comme Jill, venue de Boston, qui a du mal à y croire. Je pense que beaucoup sont démoralisés cette fois. Comment ça a pu se reproduire? Comment a-t-on pu réélire un menteur, un criminel qui menace la démocratie? Comment ça s'est produit? Tout ça à cause du prix des œufs. Millicent, elle manifeste.
Pour ma fille.
Elle a 10 mois. Beaucoup ici nous disent venir pour défendre les droits de leur fille. Shay a 20 ans. Elle vient du Kansas avec sa mère. Je suis là parce que je refuse qu'un homme me dise ce que je peux faire ou pas avec mon corps. C'est triste que les Américains ne prennent pas ça au sérieux. Les hommes n'ont pas à décider de nos corps. Les gens doivent se lever, donner de la voix. Comment vous vous sentez ici? Ça fait peur. Ça fait peur de vivre ici. De la tristesse, vous l'entendez, de la colère dans ces voix de manifestants qui continuent leur route vers le Lincoln Memorial.
Merci Camille Revel, sur place pour France Culture à Washington. À noter également la présence lundi à la Maison Blanche de Giorgia Meloni. La première ministre italienne assistera à la cérémonie d'investiture. C'est pourtant contraire à l'usage qui veut que les chefs d'État européens, même invités, ne s'y rendent pas. Parmi les autres conviés, Éric Zemmour, le britannique Nigel Farage ou encore des cadres de l'AFD allemande. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a déjà fait savoir qu'il avait décliné l'invitation. 10 jours après, les feux continuent de menacer Los Angeles. Les pompiers cherchent à canaliser les brasiers de Palisade ou Altadena. 27 morts sont à déplorer, comme d'innombrables destructions. Le monde de la culture déplore de son côté le patrimoine parti en fumée, dont la maison d'édition Belmont Music. Elle se consacrait exclusivement à la préservation et à la promotion des œuvres d'Arnold Schoenberg, immense compositeur autrichien du XXe siècle et inventeur du dodécaphonisme, technique de composition révolutionnaire. Nous avons réussi à joindre Randolph Schoenberg, le petit-fils du compositeur. Récit au micro de Louis-Valentin Lopez.
Nous sommes le mardi 7 janvier. Le feu ravage le quartier de Pacific Palisades, attisé par des vents violents, et détruit la maison d'édition Belmont Music, ainsi que les trésors qu'elle contenait, raconte Randolph Schoenberg.
C'est une immense perte. C'était un bâtiment d'un étage rempli de documents imprimés, des partitions et des parties instrumentales utilisées lors de concerts par les orchestres. Tout le principe de la maison d'édition était de rendre ces documents facilement accessibles pour pouvoir jouer la musique de Schoenberg. Ces partitions sont perdues pour toujours.
Des partitions annotées aussi par de grands noms de la musique comme Pierre Boulez, archives amassées depuis 1965.
D'autres documents ont été détruits, des correspondances de Schoenberg avec des chefs et des orchestres, ainsi que l'inventaire des performances. Tout cela a disparu, ce qui est vraiment dommage et bien sûr extrêmement triste.
Documents numérisés, oui, mais conservés uniquement sur un ordinateur détruit dans l'incendie. Randall Schoenberg compte maintenant sur un élan de solidarité.
Nous avons reçu beaucoup de propositions. Des musiciens, des archivistes, des bibliothécaires. Nous allons essayer de rassembler tout le monde, voir qui peut faire quoi, et essayer de reconstituer virtuellement la maison d'édition Belmont.
Par chance, une grande partie des archives a été épargnée, conservée au centre Arnold Schoenberg à Vienne.
Propos recueillis par Louis-Valentin Lopez. En Iran, deux juges de la Cour suprême iranienne ont été assassinés. Ce matin, à Téhéran, un homme armé les a abattus avant de se donner la mort, a rapporté l'agence officielle de l'autorité judiciaire, Mizan Online. Les deux fonctionnaires occupaient une place intermédiaire dans le clergé chiite et dans le système judiciaire iranien. Éclairage sur place de Siavosh Ghazi.
Il s'agit de deux des juges les plus importants et influents de la Cour suprême, Ali Razini et Mohamed Morisset, qui ont été tués sur leur lieu de travail par un homme armé qui s'est ensuite suicidé. Selon les médias iraniens, l'assaillant, un employé de la Cour suprême, a utilisé une arme de guerre et faisait partie des employés de la Cour, un endroit ultra protégé. Les deux hommes ont jugé depuis de nombreuses années des dossiers importants, notamment liés à la sécurité nationale, au terrorisme et à l'espionnage. La Cour suprême est chargée notamment de confirmer les peines de mort, notamment des opposants, comme cela a été le cas ces dernières semaines, pour plusieurs opposants, notamment deux femmes activistes kurdes. Mohamed Morisset, âgé de 68 ans, était sur la liste des sanctions américaines depuis plusieurs années. De son côté, Ali Razini, âgé de 71 ans, a occupé des postes importants au sein du système judiciaire, mais aussi politique de l'Iran. Il a notamment joué un rôle très important dans les dossiers des membres des Moudjahidines du peuple, principal groupe d'opposition armée depuis le début de la révolution islamique de 1979.
Siavosh Ghazi. En Israël, des sirènes ont retenti à plusieurs reprises aujourd'hui à Jérusalem. L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile venu des Houthis qui ont ensuite revendiqué l'attaque. L'organisation yéménite avait visé le ministère de la Défense israélien à Yaffa, selon son porte-parole. Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hamas prévu demain matin, les tensions restent vives dans le pays. Israël a aussi subi une attaque au couteau à Tel Aviv. L'assaillant, décrit par les autorités comme un terroriste, a été neutralisé après avoir fait un blessé. Le Hamas a de son côté annoncé que 23 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza ces 24 dernières heures. La première phase de l'accord de cessez-le-feu doit durer 6 semaines et permettre, selon l'Égypte, la libération de plus de 1890 prisonniers palestiniens. En début de semaine, Rachida Dati s'engageait devant les professionnels du spectacle à préserver le budget 2025. Mais hier soir, la ministre a annoncé devant un Sénat en pleine discussion budgétaire une nouvelle coupe de 50 millions d'euros. Les syndicats du spectacle vivant dénoncent désormais une saignée budgétaire qui risque de frapper tous les territoires. Prune Benedetti.
50 millions d'euros en moins pour le ministère de la Culture. Cette nouvelle coupe budgétaire s'ajoute à la baisse de 100 millions d'euros déjà prévue par le gouvernement. Un secteur sera particulièrement touché, celui de la création artistique. Pour Antoine Galvani, secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle, les conséquences seront majeures.
L'ensemble du spectacle vivant va être impacté, que ce soit public ou privé. On sent au niveau des tensions sur les équipes artistiques, sur l'emploi en général, on a déjà des signes de difficultés et là, on va dans le mur. C'est un plan social.
Surtout que cette annonce s'ajoute aux nombreuses coupes budgétaires récentes des collectivités locales. En décembre dernier, la présidente de la région Pays de la Loire avait supprimé plus de la moitié du budget alloué à la culture, un secteur en crise perpétuelle et shooté à l'argent public selon elle, des propos qui avaient entraîné de nombreuses manifestations dans la région. Mais d'autres territoires sont aussi concernés par ces baisses, comme le rappelle Antoine Galvani.
Juste à côté, en Nouvelle-Aquitaine, il y a moins 20%, moins 10% en PACA, en Ile-de-France, ça souffre aussi. En Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait longtemps qu'il y a des coupes. Donc, ce truc des collectivités, il s'écroule lentement depuis plusieurs années. Et là, maintenant, il y a une accélération qui, quelque part, est masquée par ce qui se passe en Pays de la Loire, qui est dramatique, mais qui, en fait, couvre quelque chose de systémique sur l'ensemble du territoire.
La CGT invite le monde du spectacle vivant à se réunir prochainement en vue d'une possible mobilisation.
Et pendant les discussions au Sénat, les élus ont décidé de rehausser à 40 millions d'euros un fonds d'urgence pour la création artistique. Il serait prélevé sur une enveloppe initialement destinée à la sauvegarde du patrimoine. Sa création dépend désormais de la future adoption du projet de loi de finances 2025. Un mot enfin d'Espagne, où un télésiège a rompu dans la station pyrénéenne d'Astoun, à quelques kilomètres de la frontière française. L'accident a fait 30 blessés, dont 4 graves. 5 hélicoptères et une quinzaine d'ambulances ont été mobilisés. Sur X, le Premier ministre Pedro Sanchez s'est dit choqué et a offert son soutien aux autorités locales. On conclut ce journal avec la météo brumeuse et froide sur la première moitié nord-est, plus dégagée de l'Alsace au Pays Basque. Comptez 2 degrés à Paris, 15 à Nice dans la soirée. Il gèlera sur une grande partie de la France cette nuit. La Corse est quant à elle placée en vigilance orange pluie et inondation jusqu'à demain 15h.